Pour ce faire, ils élaborent les arguments et ils utilisent un vocabulaire autre que les instances de propagande du régime. En d'autres mots, ils parlent comme des intellectuels et pas comme des porte-parole de l'État-parti. Et en faisant ceci, ils arrivent souvent à modifier le message du régime, parfois en tentant de l'améliorer. Ce qui veut dire que la nouvelle gauche, elle aussi, comme beaucoup d'autres intellectuels publics chinois, peuvent être vus comme des fournisseurs de contenu. Donc je vais consacrer la majeure partie de ma conférence aujourd'hui à une seule penseur, Zhang Shugong, qui est prof de droit à l'Université de Pékin, qui, à mon sens, est le représentant le plus éminent de l'école de pensée à laquelle je m'intéresse aujourd'hui. Mais je vais commencer d'abord par vous offrir un peu le contexte historique sur la Nouvelle Gauche en général. Donc, voilà, on a déjà couvert la thématique du jour. La Nouvelle Gauche, le nom a été choisi par leurs rivaux, les libéraux, pour suggérer, pour les calomnier, en disant qu'ils allaient amener la Chine vers la gauche de la révolution culturelle. Mais la Nouvelle Gauche comme groupe est née dans les années 90 en réaction aux réformes économiques et l'installation d'une économie de marché et qu'ils ont qualifié de néolibéralisme. En d'autres termes, ils ont réagi à la décision du gouvernement chinois d'aller de l'avant avec les réformes du marché. Une décision motivée par la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Ils ont été particulièrement galvanisés par le triomphalisme des États-Unis à la fin de la guerre froide, une attitude symbolisée par la publication de l'ouvrage de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, paru en anglais en 1992, et traduit tout de suite en chinois, parce qu'ils vont vite sur la traduction, et publié en 1993. L'argument de Fukuyama en termes simples est que la fin de la guerre froide signifie que la démocratie a gagné une fois pour toutes et va constituer désormais la voie de l'avenir, destinée à se répandre sur toute la planète, parce qu'il s'agit d'un système supérieur à tous les autres. Et la suffisance affichée de M. Fukuyama a fâché les gens de gauche du monde entier, y compris ceux de la nouvelle gauche chinoise, au point qu'ils continuent à condamner les livres aujourd'hui encore. En fait, je crois qu'il y a beaucoup d'intellos qui font de la pression, justement, pour cause du livre de Francis Fukuyama, tellement il le condamne, même 30 ans après sa publication. Et la Nouvelle Gauche a choisi comme principal objectif intellectuel une quête qui vise à sauver une vision socialiste, ainsi que les idées et pratiques utiles de la longue histoire du socialisme en Chine et ailleurs, offrant ainsi des possibilités et de l'espoir à l'humanité. En d'autres mots, ils étaient déterminés à prouver que Francis Fukuyama s'est planté complètement. Bien sûr, la Chine est officiellement socialiste et donc de la gauche depuis 1949. Ce qui rend la nouvelle gauche nouvelle, c'est deux choses. Premièrement, elle ne s'identifie pas pleinement à l'État parti chinois, ni celui qui mettait en pratique les politiques néolibérales dans les années 90, ni celui du temps de Mao Zedong. En d'autres mots, ils se voyaient comme des intellectuels indépendants et ils voulaient se prononcer eux-mêmes sur ce socialisme, encore une fois, de façon indépendante et pas simplement faire écho à ce que disait le quotidien du peuple ou l'école centrale du parti. Deuxième chose, la Nouvelle Gauche a été très influencée par l'Occident et en particulier par les tendances de gauche du monde universitaire occidental, comme le postmodernisme et le postcolonialisme. De nombreuses figures de la Nouvelle Gauche ont étudié en Occident, principalement aux États-Unis, foyer principal de ces courants, et c'est un peu ironique parce qu'ils détestent tous les États-Unis. Et ceux qui n'ont pas étudié en Occident ont été très influencés par ceux qui l'ont fait. Comme vous le savez tous, à la base, l'idée du postmodernisme est que les valeurs universelles prêchées par l'Occident n'étaient universelles que parce que l'Occident avait le pouvoir militaire et économique de les imposer par la force dans le reste du monde. En d'autres termes, elles étaient une projection d'intérêts occidentaux particuliers, présentés comme des principes universels pour des raisons idéologiques et souvent peu respectés dans la pratique. Une telle perspective a signifié qu'en fin de compte, les intellectuels chinois n'avaient plus à interroger ou comprendre la Chine à travers les yeux de l'Occident, comme ils l'ont fait au cours du XXe siècle. Et donc, c'était libérateur en quelque sorte. En même temps, ils n'ont pas insisté trop là-dessus au début de leur expérience, de leur histoire. Et au cours des 10 ou 20 premières années de son existence, la nouvelle gauche chinoise s'est caractérisée par deux éléments fondamentaux. Premièrement, une inquiétude profonde et je pense sincère quant au fait que la mondialisation et le capitalisme allaient détruire la Chine telle qu'ils la connaissaient. Deuxièmement, une tentative intellectuellement audacieuse de passer au peine fin l'histoire des idées et des pratiques socialistes afin d'élaborer un nouvel avenir socialiste pour la Chine et peut-être pour le monde entier. Un exemple de ceci est la figure de Cui Jiren, né en 63, un penseur typique de la nouvelle gauche de cette période. Il est politologue qui a étudié à l'Université de Chicago et ensuite enseigné à MIT pendant quelques années avant de retourner en Chine. Et un exemple représentatif des travaux qu'il a produits au début de sa carrière est un article intitulé « Insinuation partielle de la plénitude à venir, l'expérience de Chongqing à la lumière des théories de Henry George, James Mead et Antonio Gramsci », publié en anglais dans la revue Modern China en 2011. Seul le titre suffit à suggérer l'éclecticisme de la pensée de Tsui et de beaucoup de la nouvelle gauche. Henry George était un économiste et politicien américain qui soutenait que la valeur économique tirée de la terre, y compris les ressources naturelles, devait être détenue à parts égales par tous les membres de la société et non laissée aux mains des particuliers. James Mead était un économiste britannique néoclassique, lauréat du prix Nobel, qui pensait également que le gouvernement devait prendre des mesures musclées pour parvenir à l'égalité des revenus, au lieu de permettre au capitalisme de créer des inégalités. Quant au marxiste italien Antonio Gramsci, il a élaboré des théories de l'hégémonie idéologique et culturelle pour compléter l'approche matérialiste originale de Marx. Donc, l'effort novateur que Cui Jiren fait dans le but de tisser ensemble ces trois courants de socialisme, est assez typique de l'approche employée par la nouvelle gauche, dans l'optique, encore une fois, d'insister que nous n'assistons pas à la fin de l'histoire. Je ne dis pas que ça marche, mais c'est ce qu'il essaie de faire. Le modèle de Chongqing ou l'expérience de Chongqing mentionnée dans le titre du texte de Cui Jiren pointe vers l'impact réel de la nouvelle gauche en Chine. Il est en effet clair que écrire des essais éclectiques en anglais a peu de chances de rallier les masses en Chine. Par contre, l'expérience de Chongqing était une véritable expérience sociale et politique menée dans la municipalité du même nom entre 2007 et 2013 par un homme politique nommé Bo Xilai. Chongqing est une énorme municipalité de l'ouest de la Chine, c'est le petit bout en rouge que vous voyez sur le plan, de la taille de l'Autriche, si je ne me trompe pas, tout est plus gros en Chine, et avec une population de 30 millions et plus, ça fait municipalité. Lorsqu'il a été nommé à la tête de cette grosse municipalité, Bo Xilai a décidé d'avancer sa marque politique en mettant en œuvre des initiatives qui collaient avec les visées de la nouvelle gauche, à savoir puiser dans les théories socialistes et d'user du pouvoir financier du gouvernement afin de trouver des solutions à la pauvreté, au fossé entre riches et pauvres, à la criminalité et à la corruption. Et en effet, notre vision de la Chine comme pays hyper-centralisé où toute décision importante est prise à Pékin pour être suivie à la lettre par tout le monde après n'est pas vraie. On permet en Chine une certaine souplesse expérimentale qui se trouve même encouragée au niveau local, l'idée étant de voir quel modèle va fonctionner le mieux. Lorsque Bo Xilai lance son modèle Chongqing, la plupart des provinces ou municipalités en Chine étaient en train de mettre l'accent plus sur les forces du marché et moins sur l'intervention socialiste du gouvernement. Dans ce sens, Bo Xilai s'est écarté de manière assez importante du modèle néolibéral pratiqué dans une grande partie du reste de la Chine, ce qui a fait jaser pas mal dans les chaumières. Mais Bo Xilai est allé encore plus loin et a décidé d'effectuer une mobilisation des masses qui apporterait un appui populiste à son programme, entre autres en puisant dans des traditions maoïstes pour faire chanter des chansons rouges et tourner des émissions de télévision, le tout imprégné d'une charge idéologique qui n'était pas au goût de tout le monde, même si mon impression est que les gens de Chongqing l'ont globalement apprécié. Pour mettre en œuvre son modèle, Bo Xilai a reçu l'aide de membres de la Nouvelle Gauche, et Cui Jiyuan, celui dont je viens de parler, a même pris congé de son poste à Tsinghua pour se rendre à Chongqing et lui prêter main forte. Cette expérience a fait grand bruit et a également inspiré les gens de gauche hors de Chine, que pensaient que Bo Xilai avait créé une sorte de troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Cette expérience de Chongqing s'est mal terminée pour des raisons politiques. Les adversaires de Bo Xilai en Chine l'ont accusé d'avoir piqué dans la caisse et s'être abandonné au populisme, ainsi que toutes sortes d'actes de corruption et d'abus. Et il est de fait fort probable que Bo Xilai, en tant qu'homme politique, s'est engagé dans son expérience de Chongqing pour améliorer autant son sort politique que pour celui des habitants de sa municipalité. Quoi qu'il en soit, l'affaire a tourné à la lutte de pouvoir et à l'heure de la montée au pouvoir de Xi Jinping. Bo Xilai a été démis de ses fonctions, accusé d'activités criminelles et à l'heure actuelle, il purge une peine de prison à vie. Comme ce drame le suggère, l'entrée en scène de Xi Jinping a constitué un moment fort et a marqué un tournant dans la pensée de la Nouvelle Gauche. Le changement n'a pas été immédiat et plusieurs figures de la Nouvelle Gauche ont dénoncé l'arrestation de Bo Xilai. Mais au cours du mandat de Xi Jinping, la plupart des membres de la Nouvelle Gauche ont largement abandonné leur position initiale de critique du néolibéralisme étatique pour devenir des champions de l'État pur et dur. Ce qui constitue à bien des égards un virage à 180 degrés. Il y a plusieurs explications à cela. Premièrement, avant même l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine avait commencé à s'éloigner des pires excès du néolibéralisme. Deuxièmement, Xi Jinping a promis un engagement plus sincère et plus profond envers le socialisme que ses prédécesseurs. Et troisièmement, la Nouvelle Gauche était aussi désireuse que les nouveaux confucianistes de chuchoter à l'oreille du pouvoir et de servir de fournisseur de contenu pour réaliser le rêve chinois de Xi Jinping. Ce qui nous amène à notre homme du jour, Zhang Shigong, auquel je vais consacrer le reste de cette conférence. Comme je l'ai mentionné déjà, Zhang Shigong est né en 67, donc il est plutôt jeune. Il est actuellement prof de droit à l'Université de Pékin. Il écrit sur une grande variété de sujets. Les constitutions non écrites, l'idée que ce qui est écrit dans une constitution est souvent moins important que les normes et les pratiques qui entourent le document, une façon pour dire que si la Chine ne respecte pas la lettre de la loi telle qu'écrite dans sa constitution, les autres pays ne le font pas non plus. Il a écrit également beaucoup sur les relations entre Hong Kong et la Chine, l'importance de l'Empire dans l'histoire, l'histoire des droits de l'homme, l'hégémonie américaine, la pensée Xi Jinping. Donc une grande variété de sujets, mais tous ces écrits sont basés encore une fois sur l'idée centrale du postmodernisme, qui est, je le répète, que les valeurs universelles claironnées par l'Occident ne sont pas en fait universelles, mais plutôt des produits contingents de l'histoire et de la construction de l'intérêt personnel occidental. Zhang Shigong est également l'un des nombreux intellectuels de la Nouvelle Gauche en Chine à avoir été influencé par les idées de Carl Schmitt, le critique allemand du constitutionnalisme libéral communément appelé le juriste chevronné d'Hitler, pour avoir servi le régime nazi. La pensée de Schmitt est complexe, mais dans le contexte présent, on peut la réduire à deux points essentiels. Premièrement, il a insisté que tout ordre juridique et constitutionnel nécessite un souverain pour fonctionner correctement. Deuxièmement, le but de la politique est de gagner, et les victoires sont obtenues en distinguant clairement entre les ennemis et les amis. Ces idées, les idées originales de Schmitt, sont apparues dans le contexte du déclin et de la chute de la République de Weimar en Allemagne et ont été recyclées depuis par divers détracteurs du libéralisme, tant de droite que de gauche. En Chine, l'intérêt pour Schmitt a commencé dans les années 90, lorsque la chute de l'ancienne Union soviétique et la crainte que la Chine ne subisse le même sort ont alimenté la recherche d'un autoritarisme nouveau et amélioré. Et les principaux propagateurs des théories de Schmitt ont été justement les intellectuels de la nouvelle gauche. L'attrait dans le contexte chinois est évident. Dans les années 90, les armées de la Chine semblaient être en train de perdre, ce qui signifiait que le peuple chinois devait s'unifier et se rassembler autour du souverain, c'est-à-dire le parti communiste et ou son dirigeant. Il est clair qu'il existe ici une tension entre la volonté de la nouvelle gauche de critiquer les politiques néolibérales et l'idée de rassembler autour du souverain. Mais ça veut dire tout simplement qu'il y avait des tensions au sein des idées du groupe. Plus tard, l'ascension ultérieure de la Chine au rang de grande puissance a calmé les craintes de voir la Chine s'effondrer. Mais les idées de Schmitt restent utiles pour ceux qui défendent le modèle chinois unique face aux critiques occidentales. Pour revenir à Zhang Shugong et ses idées, Isaiah Berlin, le philosophe britannique, a affirmé une fois que les penseurs sont soit les hérissons, soit les renards. Les hérissons savent une grande chose, alors que les renards savent beaucoup de petites choses. Quant à lui, Zhang Shugong est fondamentalement un hérisson, on le voit avec ses cheveux d'ailleurs, et il s'attache à combler le vide laissé par l'échec du projet de Lumière, de par sa lecture de la Chine et du socialisme aux caractéristiques chinoises. En même temps, il s'agit d'un lecteur vorace, un penseur, un écrivain talentueux, et donc un vaillant guerrier pour sa cause. Je soupçonne que peu de ceux et celles qui sont ici présents seraient convaincus par les arguments de Zhang Shugong, mais ils s'en fichent, en quelque sorte, parce qu'ils n'essaient pas de nous convaincre, vous et moi, car nous vivons dans des pays, des cultures qui ne sont plus de premier plan. Lui, il essaie de convaincre les autres Chinois, en particulier les autres intellectuels chinois, d'abandonner leur foi dans les valeurs universelles et d'embrasser la Chine telle que Zhang la conçoit. Aujourd'hui, je vais me pencher principalement sur deux textes majeurs que Zhang a rédigés au cours des dernières années. Le premier est intitulé « La décennie critique dans les relations sino-américaines, le nouvel empire romain et la nouvelle grande lutte », publié en septembre 2020. Et le deuxième est « Philosophie et histoire, interpréter l'ère Xi Jinping à travers le rapport de Xi au 19e congrès national du PCC ». On ne va pas attendre le film de l'un ni l'autre de ces textes. Il s'agit dans ces deux cas de pièces longues, denses et compliquées, mais qui abordent des questions fondamentales et tentent de faire des synthèses et des percées qui font avancer le monde intellectuel chinois. Je vais commencer par l'essai le plus récent sur les relations sino-américaines, à la fois parce qu'il est plus facile à comprendre et parce que l'autre texte est plus ambitieux et fondamental. Il faut savoir que la relation entre la Chine et les États-Unis est probablement la relation bilatérale la plus importante au monde. Et si elle est sans doute très importante pour les États-Unis, elle est probablement encore plus importante pour la Chine. En fait, la Chine de nos jours doit beaucoup aux États-Unis. C'est clair que la Chine a fait des choix intelligents et astucieux au cours des dernières décennies du développement rapide. Mais toutes ces astuces ont aussi grandement bénéficié du rôle joué par le capital américain, la technologie américaine et les marchés américains. L'un des grands éléments de la mondialisation a été justement le déplacement de beaucoup de l'industrie manufacturière américaine vers la Chine. Et ici, la monnaie courante aujourd'hui pour les politiciens américains de se plaindre que la Chine a volé nos emplois. À l'époque, la plupart des capitalistes américains étaient tout à fait favorables à ce visage chinois. La Chine étant un pays où les salaires étaient bon marché, où il n'y avait pas de syndicats ou de tribunaux avec lesquels négocier, où l'État chinois était plus que favorable à la croissance économique, où un énorme marché potentiel attendait d'être développé et où, cerise sur gâteau, ils pouvaient probablement aussi éviter de payer des impôts. Pendant la majeure partie des décennies 90 et 2000, malgré des pépins ici et là, les relations entre la Chine et les États-Unis étaient en général étroites et même bonnes. Du point de vue chinois, outre les améliorations de leur vie matérielle que de nombreux Chinois associaient aux relations économiques de la Chine avec les États-Unis, les Chinois regardaient également des films et des sitcoms américains. En fait, beaucoup de Chinois d'un certain âge parlent un excellent anglais grâce au programme Friends. Et l'histoire de Ross et Rachel est presque aussi bien connue en Chine qu'aux États-Unis. Ils en venaient également à adorer les sports américains, en particulier la basket et la NBA. Ils envoyaient leurs enfants à l'école aux États-Unis et avaient généralement une opinion favorable de ce pays. De nombreux intellectuels chinois, en particulier les libéraux, qui là encore étaient probablement majoritaires en Chine, était globalement satisfait d'être essentiellement un partenaire junior des États-Unis dans un ordre mondial dirigé par les Américains et acceptait même les termes de la politique américaine d'engagement selon laquelle, en permettant à la Chine de rejoindre l'économie mondiale et de s'enrichir, la politique chinoise allait évoluer de façon naturelle vers la démocratie, ce qui était de toute façon ce que la plupart des libéraux chinois souhaitaient. En d'autres termes, cette période, des décennies 90-2000, grosso modo, a été l'âge d'or d'un mariage étrange, c'est plutôt heureux, qui semblait fonctionner. Il existe d'ailleurs une expression chinoise qui présente les États-Unis et la Chine comme un couple marié, ça s'appelle « Zhongmei Fuqilun ». Et de nombreux intellectuels chinois d'un certain âge restent quand même nostalgiques pour cette période. Pas Zhang Shugong, par contre, l'objectif de son texte est de monter un argument qui va convaincre les libéraux chinois de penser autrement. Du cœur de son argumentation se trouve la notion que les États-Unis ne sont pas bénins. En particulier, depuis la fin de la guerre froide, Zhang Shugong insiste sur le fait que les États-Unis s'attellent à la tâche de construire un nouvel empire romain qui régnera sur le monde essentiellement grâce au contrôle de l'économie mondiale. En d'autres termes, avant la fin de la guerre froide, le poids de la Russie faisait en sorte que les choses étaient équilibrées. Mais avec la chute de l'Union soviétique, les États-Unis étaient libérés pour tout faire à leur tête. Dans le cadre de cet empire, Zhang continue, la Chine était destinée à jouer le rôle de partenaire junior, aidant les États-Unis à atteindre le contrôle économique tout en restant dans une position soumise. Entre autres choses, Zhang utilise cet argument pour rappeler à ses lecteurs qu'il ne faut pas faire confiance à la politique américaine d'engagement. Il dit, regardez ce qui s'est passé lorsque Gorbatchev a tenté la réforme et l'ouverture. L'Union soviétique s'est effondrée et l'ensemble du bloc soviétique s'est dessous après. La Chine a mieux géré ses affaires que l'ancienne Union soviétique, certes, mais cela est dû à l'habilité de la Chine, insiste Zhang, et non à la bonne volonté américaine, et il ne faut surtout pas se leurrer. En outre, la crise financière de 2008 a changé la donne, car elle a montré que la Chine était le partenaire junior d'une entreprise qui tout d'un coup s'est montrée très peu solide. Donc, au-delà de la bienveillance douteuse de l'Empire américain, 2008 signifiait que la Chine devait repenser les choses en fonction de ses propres intérêts, car même si les États-Unis arrivaient à se mettre sur pied, la Chine semblait destinée à un avenir prolongé en tant que pays défini par la fabrication ou l'assemblage bas de gamme, dans laquelle la Chine faisait tout le travail et les bénéfices revenaient aux États-Unis. Par conséquent, au cours de la décennie 2010, la Chine repense sa stratégie de développement, en se focalisant cette fois-ci sur la haute technologie, à l'expansion du marché domestique, entre autres choses, pour produire finalement ce qu'ils ont appelé le plan Chine 2025, un plan qui visait à améliorer la capacité technologique de la Chine grâce au 5G, à l'intelligence artificielle, le tout jumelé au projet Nouvelle Route de la Soie, une sorte de plan Marshall à la chinoise visant largement, mais pas exclusivement, l'Asie centrale et l'Afrique, l'idée étant d'utiliser la capacité de la Chine à construire des infrastructures pour étendre les routes, les trains, les ports dans toutes les parties du monde qui sont sous-développées. La Chine a bien sûr le droit, en tant que pays souverain, de planifier son avenir et de viser plus haut. Après tout, son statut de partenaire junior des États-Unis n'a jamais été négocié de haute voix. C'était peut-être pas très diplomatique de la part de la Chine de claironner leur nouvelle vision stratégique comme ils l'ont fait, mais bon, il s'agissait de la deuxième puissance économique mondiale dans un contexte supposément axé sur la compétitivité. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont à leur tour très mal pris les initiatives chinoises. Ils ont déclaré que la politique de l'engagement avait échoué et que cet échec était la faute de l'État-parti chinois, qui n'avait bien sûr jamais adhéré aux finalités politiques, la démocratisation de cette politique d'engagement. En même temps, les États-Unis décident d'identifier la Chine comme principal concurrent ou rival stratégique et prennent une série de mesures conçues exprès pour freiner l'essor de la Chine, en particulier dans le domaine de la haute technologie, ce que la Chine a bien sûr mal pris à son tour, qualifiant ces mesures d'endiguement, ce qu'elles étaient et sont. Bon nombre de ces mesures ont été des tactiques extrêmes et dures, comme l'arrestation par proxy de Meng Wanzhou au Canada, Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, et au cadre dans l'entreprise. Huawei est bien sûr l'entreprise phare de la Chine, spécialisée dans les téléphones cellulaires, les réseaux sans fil. Les États-Unis ont fait leur mieux pour freiner le succès de Huawei à travers le monde en convainquant leurs alliés de ne pas acheter les réseaux 5G de Huawei pour des raisons de sécurité. Donc tout ça, c'est Zhang Shigong présente tout cela. Et pour en faire une histoire courte, il continue en disant, il conclut en disant, oubliez votre nostalgie pour le beau mariage États-Unis et Chine, car il s'avère que l'un des partenaires n'est pas celui qui prétendait de l'être. Donc selon lui, le mariage est maintenant fini, caput, qui est une excellente nouvelle pour la Chine et même pour le monde entier. Pour la Chine, elle va se trouver libérée enfin de mariage arrangé et donc désormais libre de ses choix. Il en va de même pour le reste du monde, car Zhang laisse entendre que sans l'assistance de la Chine, les États-Unis n'étaient plus en mesure de construire leur nouvel empire romain. Je dirai quelques mots sur ce que ce nouveau monde pourrait ressembler sous peu. Alors, à mon sens, même si Zhang se livre à quelques tours de passe-passe ici et là, la plupart des arguments tiennent la route d'un point de vue chinois. En fait, c'est le divorce. Si c'était le mariage avant, maintenant c'est le divorce. Et ni la Chine ni les États-Unis arrivent à se mettre d'accord sur qui a fait quoi en premier, qui est le coupable, etc. etc. Et c'est... Donc, on peut monter un argument qui va dans un autre sens. Disons que la Chine est le premier à refuser la relation intérieure, mais Zhang Shigong est à parler aux Chinois et donc ce qu'il dit passe plutôt bien de ce côté-là. Ce qui est intéressant dans l'article, de mon point de vue, c'est l'acharnement dont Zhang Shigong fait preuve dans ses efforts de convaincre son public, qui encore une fois est composé en grande partie d'intellectuels chinois libéraux et ceux qui partagent leurs opinions. Pour ce faire, Zhang Shigong utilise à la fois la carotte et le bâton. Pour commencer par le bâton, il fustige les libéraux chinois dans les termes que les gens que moi je lis utilisent très rarement. Dans l'espoir, je suppose, de les effrayer ou de les choquer, quelques exemples à l'appui. Le développement d'une économie de marché en Chine a rapidement créé une classe commerciale puissante qui a noué des relations étroites avec les capitalistes occidentaux. Les plus puissants d'entre eux étaient très dépendants des financiers capitalistes occidentaux, constituant une classe invisible et transnationale de compradors. C'est un mot tiré du vocabulaire marxiste. En fait, c'était portugais à la base. Il décrit des commerçants chinois qui entretiennent des relations louches avec des capitalistes étrangers. Cette classe de personnes vénérait la culture occidentale, s'identifiait au monde occidental, utilisait le capital financier et le pouvoir gouvernemental pour extraire des profits monopolistiques. Cette classe a profondément pénétré les médias, l'éducation et d'autres domaines en Chine, dans une tentative de contrôler la direction du développement culturel de la Chine, et espérait en outre obtenir encore plus de richesses et de pouvoir direct par la privatisation et la démocratisation. Et il continue, d'un point de vue politique, le processus de réforme économique menant à la commercialisation a entraîné d'énormes changements dans les valeurs culturelles de l'ensemble de la société chinoise, et de nombreux fonctionnaires sont devenus de plus en plus corrompus. Soit ils se comptent tout seuls de leur propre initiative, soit ils y sont talonnés par des hommes d'affaires, ce qui a conduit à la création d'intérêts de copinage avec la classe des affaires, à tel point que le développement économique de la Chine est souvent critiqué comme un capitalisme de copinage. Je continue un peu, je sais que c'est long, mais c'est un peu son marque de commerce d'être long, Zhang Shugong. D'un point de vue intellectuel, au cours de l'ère moderne, la pénétration américaine de la culture chinoise a produit une classe solide de personnes qui sont très proches de la culture américaine. Ils croient en l'idéologie libérale et acceptent la vision américaine de la fin de l'histoire, encore Francis Fukuyama, et avec une volonté presque religieuse. Ils rejoignent la cause américaine de l'évolution pacifique. L'évolution pacifique est le mot chinois pour la politique d'engagement américaine. L'idée que nous allons se faire acheter par des bonbons américains et de ce fait finirons par se trahir nous-mêmes. En conséquence, le système médiatique culturel contrôlé par le capital commercial et les intellectuels libéraux presse systématiquement les valeurs du relativisme et du nihilisme historique intrinsèque à la liberté et à l'égalité. Et continue, pas la peine de lire tout cela. Vous devez me croire sur parole que lorsque je dirais que ce ton est extrêmement inhabituel dans les écrits des intellectuels chinois publics que je lis sur une base régulière, ces écrits, sans vouloir forcément ménager la chèvre et le chou, ne vont pas souvent jusqu'à crier après ses lecteurs. La cible de Zhang Shugong était également extrêmement large et s'étend au-delà de ses homologues libérales et s'étend jusqu'à la majeure partie du gouvernement et les médias chinois. Et donc, d'un côté, il y a son argument à, disons, à quel point les Américains sont à méfier. Il donne des pages et des pages et des pages là-dessus, et puis il attaque les gens que lui, il croit, sont toujours du côté des Américains. Donc, c'est ça qui m'a impressionné. Voilà pour le bâton de Zhang Shugong. Sa carotte, c'est qu'après avoir fustigé les libéraux chinois, il conclut en notant que Samuel T. Huntington, le politologue américain conservateur, a condamné la politique d'engagement américaine plus ou moins dans ces mêmes termes. Ceci est important car Huntington est largement admiré dans certains cercles libéraux en Chine, comme je l'ai mentionné la dernière fois. En résumé, le but de ce texte de Zhang Shugong est de changer la façon dont les Chinois, et en particulier les intellectuels chinois, voient une partie fondamentale du monde, leur relation avec les États-Unis. Et la façon dont il tente de le faire montre à quel point la vision du monde avec laquelle Zhang Shugong est en désaccord semble être répandue. Donc, pour moi, tout ça à dire que ce n'est pas joué en Chine. Il y a beaucoup de gens qui continuent à croire dans l'ancien système. Tout en étant nationalistes, ils étaient contents avec le système où la Chine était un peu le partenaire junior des États-Unis. Et ils ont un peu du mal avec l'insistance que la Chine soit unique et le centre du monde de nouveau. Donc, Zhang Shugong s'attaque à ça. Donc, je vais ouvrir ici une petite parenthèse pour discuter brièvement de la question de ce que Zhang Shugong voit comme possibilité pour le nouvel ordre mondial qui sera issu du divorce de la Chine et des États-Unis. En effet, le thème des relations sino-américaines est beaucoup, beaucoup abordé en Chine par une variété d'auteurs, dont la majorité condamne les États-Unis et chante les éloges de la Chine. Toutefois, la plupart de ces auteurs passent sous silence la question d'un nouvel ordre mondial. Il est vrai, bien sûr, que la Chine a déjà créé un nombre de slogans qui parlent du sort commun de l'humanité ou du respect mutuel d'une variété de formules gagnant-gagnant, mais en général, ils sont beaucoup plus éloquents sur le diable qu'est les États-Unis que sur le paradis qui va suivre son déclin. Zhang Shugong est un peu différent dans ce sens qu'il a signé au moins deux textes qui parlent favorablement de l'avenir de l'Empire. L'un, la logique interne des entités politiques surdimensionnées, Empire et autres mondiales, publié en 2019, et un deuxième, avec le titre « L'histoire impériale sans empire », qui est un recensement critique publié en 2021 de l'œuvre de l'historien britannique John Darwin, après Tamerlan, l'histoire globale de l'Empire. Et donc, l'argument de base de John est assez simple. Il dit que les empires ont toujours été les éléments structurants des ordres politiques régionaux, même avant la montée de l'impérialisme rende possible la construction d'empires mondiaux. La montée des idées de souveraineté et d'État-nation au cours de la période moderne a rajouté de nouveaux aspects à la construction et à l'administration de l'Empire et, pour certains, a fait perdre de vue son importance actuelle. Mais, il insiste, les empires n'ont pas disparu pour autant, ils ont seulement changé de forme et de fonction. Donc le texte de Zhang Shegong s'étend largement dans le temps et dans l'espace, mais selon ma lecture, ce qui veut dire, c'est que l'Empire, et en particulier l'Empire mondial, structuré autour des marchés, des monnaies, des devises, et de la politique intérieure des superpuissances déguisées en pratiques juridiques universelles, fait partie inéluctable du monde contemporain. Donc, à l'instar de ce que Jésus-Christ a dit sur les pauvres, Zhang semble vouloir dire « l'Empire, vous l'aurez toujours avec vous ». Et donc, si l'initiative des nouvelles routes de la soie respire un peu l'Empire, ben tant pis. Ça sera, quoi qu'il en soit, un empire aux caractéristiques chinoises. Je trouve ceci assez remarquable. Non seulement parce qu'il est impensable qu'un intellectuel occidental chante les louanges de l'Empire, mais aussi parce que, jusqu'à très dernièrement, la nouvelle gauche chinoise, dont la plupart comme Zhang Shegong, sont les champions de l'État pur et dur, faisait de la souveraineté l'un de ses principes directeurs. Bien entendu, Zhang ne dénonce pas la souveraineté, même s'il suggère, avec un clin d'œil, que le discours de l'État-nation est un tour de passe-passe. Zhang Shegong pense-t-il vraiment que les pays ciblés par les nouvelles routes de la soie ne sont pas concernés par les questions de souveraineté? Sont-ils prêts à faire partie d'un empire chinois? Je ne sais pas, mais la lecture de ces textes me laisse perplexe. Ok, passons finalement à l'autre texte de Zhang Shegong, celui de 2018, Philosophie et histoire interprétée, l'ère de Xi Jinping à travers le rapport de Xi Jinping au 19e congrès national du PCC, même si le titre ne donne pas forcément envie, je l'avoue. L'objectif de Zhang Shegong dans ce texte est encore plus large, plus fondamental quand il aborde le thème des relations sino-américaines, à savoir de convaincre les lecteurs libéraux de la légitimité de Xi Jinping et de la réalité du socialisme chinois. Et en fait, je crois que ce texte-ci est probablement le texte le plus important écrit par un intellectuel public au cours des 10 dernières années. Et même mes amis libéraux, qui n'aiment pas particulièrement Zhang Shegong et n'ont pas apprécié son texte, ont admiré son ambition. Et ils me l'ont dit ouvertement. Donc, pour ce qui est de la légitimité de Xi Jinping, ceci peut nécessiter peut-être quelques mots d'explication. Depuis la réforme et l'ouverture, une question fondamentale se pose quant à la légitimité de l'État-parti chinois. Par ceci, je ne veux pas dire que le régime est sur le point de tomber. Les améliorations matérielles ont gagné la majorité des Chinois et les divers efforts de propagande, y compris l'éducation patriotique qui inculque aux jeunes un ensemble de valeurs très nationalistes, ont réussi à établir un lien entre ces bienfaits matériels et le travail du Parti communiste ou le Parti État. Les sondages signale invariablement que les Chinois sont plus satisfaits des performances de leur gouvernement que les Français ou les Américains. Pourtant, il reste des questions persistantes sur la légitimité du régime, car s'il se prétend socialiste, ce qui a transformé la Chine au cours de 40 années de réformes et d'ouverture, ce sont les marchés, l'esprit d'entreprise et la mondialisation. Je crois que beaucoup de Chinois estiment que le Parti communiste a assez bien géré ce processus et que la plupart des Chinois sont patriotes et fiers de ce que la Chine a fait. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre eux soient vraiment convaincus par les idées et les idéaux socialistes. Pas qu'ils sont contre, mais quand même. Quant à Xi Jinping, il semble être raisonnablement populaire auprès du peuple chinois, surtout pour sa lutte constante contre la corruption, qui est détestée par les Chinois. Mais il suscite tout de même de nombreux doutes chez les intellectuels, et notamment les intellectuels libéraux, en raison de son programme qui penche à gauche et rappelle certaines postures maoïstes. Et parce qu'il est allé, Xi Jinping, à l'encontre de deux règles fondamentales établies par Deng Xiaoping dans le but d'empêcher le retour d'un deuxième Mao Zedong. Un, l'engagement en faveur d'un leadership collectif, et deux, la règle qu'un président est limité à deux mandats de 5 ans. Je dois rajouter ici que même si le visage de Xi Jinping est partout dans les médias chinois et qu'il est constamment cité dans les journaux et à la télévision, en quoi consiste réellement la fameuse pensée Xi Jinping n'est pas toujours évident pour quiconque veut aller au-delà de la stratégie politique ou du slogan du jour. J'ai un jour passé un après-midi, mémorable ou peut-être pas, à lire le premier volume des ouvrages collectifs de Xi Jinping et j'en suis ressorti sans en savoir beaucoup plus qu'au départ. À mes yeux, ces discours semblent être en grande partie des discours politiques passe-partout, adressé à l'audience du moment, sans beaucoup de poids ou de profondeur, comme les discours de n'importe quel politicien d'ailleurs. On ne s'attend pas grand-chose à Joe Biden ni à Emmanuel Macron. Mais dans le contexte chinois, on s'attend à ce que le leader ait plus à dire que juste ça, mais je ne suis pas sûr que Xi Jinping ait plus à dire que tout ça. Donc, au-delà de son engagement envers le marxisme et le contrôle du parti, son point de vue sur les marchés et les réformes, sur la redistribution sociale et l'esprit d'entreprise, en fait, sur toute une série de questions qui comptent beaucoup pour la Chine, me semble assez nébuleux. Donc, pour ce qui est de Jiang Zemin, dans son texte, il relève ses défis de manière, comme je l'ai dit déjà, assez ambitieuse. Il tente en même temps de dialoguer avec certaines tendances intellectuelles en Chine au cours des dernières années et décennies, dans le but, encore une fois, de persuader d'autres intellectuels chinois de partager son point de vue et celui de Xi Jinping. Et si peu de ce que dit Jiang Zemin me convainc personnellement, je pense qu'il soulève quand même des questions intéressantes, comme celle de la signification du socialisme, du communisme, dans un pays qui s'enrichit rapidement. Et il avance quelques arguments que moi je trouve intéressants. En fait, une façon de comprendre ce que Jiang Zemin essaie de faire dans ce texte est de le voir comme une mise à jour de la théorie du socialisme ou du communisme à la lumière de ce qui s'est passé dans le monde et en Chine depuis un demi-siècle. Ce qui suggère également qu'il essaie de créer une nouvelle idéologie qui sera conforme à la nouvelle base matérielle de la Chine, qui est une quête assez noble, si difficile. L'une des principales caractéristiques de la mise à niveau idéologique que Jiang Zemin cherche à façonner est qu'elle se bat contre le pluralisme qui existe déjà en Chine. Dans une de mes conférences précédentes, j'ai longuement parlé de Ganyang et de son idée selon laquelle le succès actuel de la Chine est dû à l'unification des trois traditions. Et donc pour Gan, c'était l'efficacité du marché de Deng Xiaoping, le sens de la justice sociale de Mao Zedong et le sens du personnalisme, du confucianisme traditionnel. Et j'ai dit que cette idée avait lancé 1000 tentative de faire la même chose, et ça part dans tous les sens. Jiang Zemin propose pour sa part sa version des traditions de Ganyang, vous les voyez devant vous. Il dit que la Chine s'est levée sous Mao Zedong, s'est enrichie sous Deng Xiaoping et est devenue puissante sous Xi Jinping. Et donc, il était immédiatement évident que, contrairement à la formule de grande envergure de Gagnon, les trois traditions de Zhang Shigong se limitent à l'expérience de la Chine sous le régime du Parti communiste et se concentrent sur les trois principaux dirigeants de ce parti, Mao Zedong, Deng Xiaoping et Xi Jinping. Il est difficile de ne pas y voir un appel brutal lancé aux intellectuels chinois, leur demandant de cesser de jouer dans le sablier et de se rappeler qui, enfin, est le patron. Il y a d'autres remarques plus pointues dans le texte de Zhang Shigong, dans lesquelles il s'en prend à la fois aux libéraux et aux nouveaux confucianistes, pas tout à fait par leur nom, mais il n'est pas difficile de voir de qui il parle, si vous suivez minimalement la scène intellectuelle chinoise. Je vous épargne les détails, mais le ton est similaire à celui que nous venons d'explorer dans l'essai de Zhang Shigong sur les relations sino-américaines. Une autre partie intéressante du texte de Zhang Shigong est sa discussion du socialisme aux caractéristiques chinoises, l'un des slogans déterminants de la période de réforme et d'ouverture. Avant l'essor de la Chine, ce slogan était largement compris comme une apologie pour le capitalisme et pour l'autoritarisme. Les autorités chinoises semblaient dire en effet que nous allons changer l'orientation fondamentale de notre régime et embrasser le capital et la mondialisation, mais nous allons quand même continuer à nous appeler socialistes, ce qui va expliquer pourquoi le Parti communiste reste au pouvoir. Au XXIe siècle, cependant, après l'effondrement de l'ancienne Union soviétique et le déclin apparent des États-Unis, le socialisme aux caractéristiques chinoises a commencé à prendre un nouveau sens, beaucoup plus positif cette fois-ci. Il ne s'agit plus d'une posture défensive adoptée par un régime chancelant à la recherche d'une nouvelle légitimité, mais plutôt de la création d'un socialisme renouvelé sous la direction de la Chine, qui pourrait bien annoncer un nouvel ordre mondial. En d'autres termes, au siècle de la Chine, le socialisme aux caractéristiques chinoises sera le cadeau que la Chine va offrir au monde entier. Comme dans son article sur les relations sino-américaines, Jiang parvient habilement à suggérer qu'avant l'arrivée du pouvoir de Xi Jinping, la Chine se dirigeait vers une situation similaire à ce qui est arrivé en l'ancienne Union soviétique, ce qui veut dire que Xi a sauvé non seulement la Chine, mais aussi le monde. Et je cite Zhang Shigong à ce titre, « L'idée du socialisme aux caractéristiques chinoises signifie que le socialisme n'a pas vraiment de modèle de développement fondamental et consiste plutôt en un ensemble de principes et d'idées de base. Ces principes et idées doivent être continuellement explorés et développés dans la pratique en suivant l'avancée du temps. Le socialisme aux caractéristiques chinoises ne consiste pas à ajouter des caractéristiques chinoises à un cadre socialiste déjà défini. Il utilise plutôt l'expérience vécue de la Chine pour explorer et définir ce qu'est, en dernière analyse, le socialisme. Pour cette raison, le socialisme n'est pas un dogme fixe et figé, mais plutôt un concept ouvert qui attend d'être exploré et défini. La Chine ne suit pas aveuglément les idées et les institutions socialistes produites par l'expérience occidentale du socialisme, mais trace plutôt la voie du développement socialiste sur la base d'une plus grande confiance en soi, portant le projet de modernisation de la construction socialiste à sa troisième phase. Alors, à ce stade, les lecteurs pourraient s'attendre à ce que Zhang discute des rouages du socialisme aux caractéristiques chinoises, ce qui aurait probablement conduit à une discussion assez familière sur ce qui est unique dans le capitalisme d'État chinois. Mais au lieu de cela, Zhang pivote dans un autre sens complètement et tente de décrire ce que signifient le marxisme et le communisme dans la nouvelle ère définie par cette nouvelle compréhension du socialisme aux caractéristiques chinoises. Il s'agit bien sûr d'une question pertinente. Quelle est la signification du marxisme ou du communisme dans un pays moyennement prospère, où des slogans marxistes familiers comme « vous n'avez rien à perdre sauf vos chaînes » sonnent quelque peu creux? La réponse de Jiang est que le communisme 3.0 a moins à voir avec la vision du socialisme utopique du XIXe siècle qu'avec un engagement envers la perfection qui résonne avec la culture traditionnelle chinoise. Et je le cite de nouveau. Lorsque Xi Jinping insiste sur le retour aux principes communistes, il ne parle pas de la société communiste qui était à l'image du socialisme scientifique, mais ils utilisent plutôt l'idée que ceux qui n'oublient pas leur intention première l'emporteront. Une idée tirée de la culture traditionnelle chinoise. Ce faisant, il soustrait le communisme au cadre social spécifique de la tradition scientifique empirique occidentale et le transforme astucieusement en le néo-confucianisme, un courant de la philosophie traditionnelle chinoise, qui élève à son tour le communisme à une sorte de foi idéale ou de croyance spirituelle. Pour cette raison, le communisme ne sera plus jamais ce qu'il a été sous Mao Zedong, quelque chose qui était censé prendre une forme sociale réelle ici-bas à tout de suite, mais il est au contraire l'idéal et la foi les plus purs et élevés du parti. Il fait désormais partie de l'éducation et de la culture du parti. Bref, le communisme n'est pas seulement une société concrète à réaliser dans un avenir lointain, mais aussi l'idéal le plus élevé qui sera absorbé dans la pratique politique actuelle, un état spirituel vibrant. Je trouve que ça vibre pas mal, en effet. Le communisme n'est pas seulement une belle vie future, mais il est aussi et surtout l'état spirituel des membres du Parti communiste dans leur pratique de la vie politique. À première vue, et même à deuxième, celle-ci est une affirmation assez audacieuse. Parce qu'au moins dans ma lecture du marxisme et du confucianisme, les deux ont très peu en commun au niveau de la signification. Mais comme je l'ai déjà noté, ce n'est pas moi ou vous que Zhang essaie de convaincre. Et je dois admettre que d'un point de vue rhétorique et discursif, l'argument de Zhang est assez astucieux. Je m'explique. Premièrement, la Chine parle depuis des décennies de la nécessité de siniser le marxisme, ce qui témoigne de la fierté de la Chine pour sa civilisation ancienne et du nationalisme qui était au cœur de la révolution chinoise. Deux éléments qui ont rendu les marxistes chinois un peu mal à l'aise à prendre Marx, Engels, Lénine et Staline comme leurs seigneurs et maîtres spirituels. En d'autres mots, pour les Chinois, si la Corée du Nord, le Vietnam et le Cuba veulent faire cela, très bien, mais ce ne sont que des petits pays insignifiants, alors que nous, nous sommes la Chine. Mais comment signaliser le marxisme autrement que de manière superficielle n'était pas clair jusqu'à la montée en puissance de la Chine, dont la leçon est qu'on va signaliser le marxisme en réussissant dans le monde réel. Donc, ce qu'il dit, c'est que si le socialisme aux caractéristiques chinoises est en effet le socialisme du XXIe siècle, alors, au lieu de relire Marx pour s'assurer que la Chine pratique bien le socialisme, il faut revenir en arrière et corriger Marx sur la base de ce que la Chine réussit. Après tout, il n'y a pas d'académie française pour se prononcer sur la pureté du geste et du mot, c'est la Chine qui fait autorité. Il en va de même pour le chevauchement supposé entre le confucianisme et le marxisme. Le confucianisme tel qu'il existe aujourd'hui en Chine continentale est en grande partie une tradition réinventée, je l'ai dit la dernière fois, ou celle d'avant. En tant qu'institution sociale, le confucianisme est mort en 2005 lorsque la dynastie Qing abolit les examens et le confucianisme en tant qu'ensemble d'idées pertinentes a largement disparu parmi les intellectuels chinois dans les années 20, bien qu'il ait été préservé sous une nouvelle forme dans la diaspora chinoise. Il y a bien sûr des professeurs de philosophie en Chine qui en savent long sur le confucianisme, mais une grande partie du discours politique diffusé par les nouveaux confucianistes en Chine depuis une trentaine d'années est tout à fait nouvelle et assez éloignée de la réalité traditionnelle. Dans ce sens, l'insistance de Zhang Shigong sur le fait que rester fidèle à ses intentions caractérise à la fois le marxisme et le confucianisme et relie le marxisme aux doctrines néo-confuciennes n'est peut-être pas plus farfelu que certaines d'autres affirmations et peut-être comprise comme un geste aux nouveaux confucianistes chinois leur disant en effet merci beaucoup pour votre contribution mais nous allons prendre le relais nous-mêmes. Au-delà des arguments de base de Zhang Shigong, ce qui frappe dans son article qui est une fois de plus extrêmement long, c'est 70 pages à double interligne, c'est l'effort qu'il déploie pour essayer de prévoir toutes les objections possibles à son point de vue, qui, en résumé, est que Xi Jinping a sorti la Chine d'une crise qui aurait pu ressembler à celle de l'ancienne Union soviétique et qui trace une voie par laquelle la Chine sera la lumière du XXIe siècle. Il serait fastidieux d'essayer de montrer précisément comment Zhang Shigong s'y prend, donc vous devez une fois de plus, me croire sur parole, mais l'intensité de son travail est à la mesure du défi qu'il croit avoir devant lui, en d'autres termes, beaucoup d'intellectuels chinois qui ne croient pas vraiment au socialisme, aux caractéristiques chinois et aux gloires de la pensée de Xi Jinping. Donc, en guise de conclusion, voilà le socialisme 3.0 et la pensée de Xi Jinping telle que présentée par Zhang Shegong. Est-ce que c'est cohérent? Je vous laisse tirer vos propres conclusions. J'avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé à lire et traduire Zhang Shegong, je me trouvais à dire « mais c'est n'importe quoi, tous les 3 ou 4 paragraphes ». Mais après avoir traduit des centaines de pages de sa plume, je ne fais plus cela. Je ne sais pas s'il a fini par me convaincre ou si c'est plutôt l'effet de l'usure. Mais maintenant, au lieu de dire n'importe quoi, j'ai tendance à dire « je vois ce qu'il veut dire sans être forcément d'accord ». Donc, comment finalement caractériser ce socialisme 3.0? Premièrement, le socialisme 3.0 semble rimer beaucoup avec le succès de la Chine contemporaine. L'argument semble être « la Chine est socialiste, la Chine va bientôt être le pouvoir dominant dans le monde, donc nous sommes le socialisme ». Ça me fait penser un peu aux églises aux États-Unis, dont la carte d'affaires souligne la richesse matérielle de l'église et de ses membres, disant en effet « on a réussi, il est évident que Dieu nous aime et que nous sommes des bons chrétiens ». Les deux cas me semblent problématiques. Dans le cas du socialisme 3.0, le côté critique, rêveur, utopique de Marx semble avoir largement disparu, même si Zhang Shegong évoque souvent l'idée de la lutte et d'avoir été remplacé par une fierté nationale et un nationalisme qui frôle parfois la suffisance. Vu de cette perspective, j'avoue que j'ai du mal à voir comment le rêve chinois va remplacer le rêve américain, aussi creux que ce dernier peut paraître. Deuxièmement, le socialisme 3.0 de Zhang Shegong ne semble plus parler de la société, ou pas beaucoup. La lutte des classes n'est plus nécessaire quand les soucis du peuple disparaissent grâce à l'habilité de l'État et son grand leader. La lutte que préoccupe Zhang Shegong est-elle entre les Chinois qui embrassent l'État et son leader et ceux qui nourrissent des doutes, et surtout entre la Chine et les États-Unis? Finalement, Zhang Shegong reste fidèle à Carl Schmitt dans le sens que tout est l'histoire des amis et des ennemis. Merci beaucoup.